Bienvenue à Nouvelle Vie. En ce dimanche de Pâques, c'est notre septième célébration ce week-end, vendredi soir, deux fois. Hier, Nueva Vida, hispanophone, deux réunions à la Prairie en simultané, deux réunions à Nouvelle Vie, la Prairie, deux réunions à Longueuil. Je suis revenu. C'est la première fois que je manque vendredi saint en 26 ans. J'étais dans un avion de retour du Colorado pour un CA sur une organisation qu'on m'a demandé de siéger. Alors, j'ai manqué le vendredi saint. J'ai eu juste des bons rapports. Et je veux juste vous dire un avertissement à l'avance, surtout pour ceux qui sont là pour les premières fois. J'ai l'habitude d'avoir un peu chaud, mais là, j'ai attrapé une espèce de bug. Je suis fiévreux depuis hier. Je passe du frisson à claquer des dents à suer à un niveau incommensurable. Dites à la personne près de vous, ça va être quelque chose à voir. Dites à la personne près de vous. Alors, et peut-être un peu de délire aussi avec la fièvre. Alors, on va voir ce qui va arriver. Nous allons nous préparer dans quelques instants à recevoir nos offrandes pour les gens de Nouvelle Vie. Si vous êtes là comme invité, on est juste heureux de vous accueillir, un sourire, un cœur ouvert. C'est tout ce qu'on demande de vous. Mais pour les gens de Nouvelle Vie, on va recevoir les offrandes dans un instant. Nous croyons que tout au long de l'année, mais Pâques, c'est la résurrection de l'espoir. C'est la restauration de l'espoir, non seulement en parole. On ne peut pas être l'Église de Jésus, si on parle d'espoir sans que ça soit en action, sans que ça soit pratique, sans que ça soit dans le concret. Alors, c'est pourquoi, il y a plusieurs... Dans le début de l'Église, il y a 26 ans, nous avons fondé l'organisme Action Nouvelle Vie. Les bâtiments sont ici, à côté, qui vient maintenant en aide à 8 à 10 000 personnes par mois, banque alimentaire et toutes sortes de projets ici dans notre ville, mais également internationalement. Alors, que ça soit partout en francophonie, camp de réfugiés, en différents pays, en particulier en Haïti. Et ce matin, pour les gens de Nouvelle-Vie, même si c'est le dimanche de Pâques, je veux souligner quelque chose. On prie beaucoup pour Haïti. On est partenaire avec Haïti depuis des années. On a des amis de longue date là-bas. On a des équipes qui y vont toute l'année. Des écoles, des églises, des dispensaires, des villages qu'on a développés avec des puits d'eau, avec toutes sortes de projets de développement durable. Et il se passe des choses très difficiles en Haïti en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de violences qui prennent place. Et nous avons une église qui est là depuis longtemps avec le pasteur Kangé Michelet, une école pour les enfants, église et dispensaire, mais il est dans Petionville à Port-au-Prince, dans le bas de Delma, pas Petionville, Delma, en bas de Delma, sur le bord de Cité Soleil, et c'est un des quartiers les plus violents et sans loi de notre hémisphère, et depuis quelques semaines, il y a énormément de violence, et là, il y a des gangs qui ont mis le feu à des maisons. Il y a 5000 personnes dans un quartier qui ont perdu leur maison, et l'église du pasteur Kangé, qui a passé 20 ans à bâtir, a été brûlée jusqu'au sol. L'église est réduite à rien. On a envoyé des fonds cette semaine d'urgence, mais vous vous souviendrez que pendant le tremblement de terre, il y a une autre de nos églises qui, elle, est à Petionville, avec le pasteur Wilson Charles, qui avait été fissuré. Et avec votre générosité, on a envoyé des équipes, on a envoyé des ingénieurs, architectes, gens de construction, et on a rebâti l'église encore plus grande. Moi, j'étais là-bas pour aller faire la dédicace. Alors, cette semaine, nous allons contacter Kangé. Et combien croient que c'est absolument, totalement Pâques qu'ensemble on dise, pasteur Kangé, on va rebâtir l'église aussi dans le quartier d'Alma. Est-ce qu'on peut ensemble dire c'est ça, l'église du Seigneur? On va aller. L'école et l'église vont être rebâties par nous tous. Alors, l'équipe va s'avancer pour les offrandes pour les gens de Nouvelle Vie pendant que nous allons recevoir ces offrandes. Un court vidéo, quelques instants, avec quelques images de ce qui prend place, pas seulement à Pâques, mais 365 jours par année, en action, ensemble.
Je cède la parole à Mme la députée de Taillon.
Merci, Mme la Présidente. L'organisme Action Nouvelle Vie prend soin des personnes vulnérables à Longueuil depuis 25 ans. Je souligne la présence de Mme Suzanne Fournier dans nos tribunes. Avec le soutien de partenaires solides, Action Nouvelle Vie offre aide alimentaire et vestimentaire, soutien à l'éducation, réinsertion sociale et logement à de jeunes adultes afin de prévenir la délinquance, l'itinérance et l'exploitation sexuelle. Son implication sociale est concrète. Le bien-être des enfants est une priorité. Plus de 16 000 paniers de nourriture distribués, 26 000 personnes qui utilisent leur friperie, 8 000 personnes sont accueillies chaque mois. Il faut voir leur grandiose fête de Noël qui émerveille autant les grands que les petits. De plus, leur maison, le 2159, permet une transition accompagnée à des jeunes qui, à 18 ans, quittent les centres jeunesse. Leurs valeurs, responsabilité sociale, dignité et excellence. Au nom de Taillon, Je veux remercier Action Nouvelle Vie, sa directrice Suzanne Fournier, pour leur engagement indéfectible et aussi parce que leur adresse est celle de l'espoir pour des milliers de mes concitoyens depuis 25 ans.
Qui aurait pu imaginer lorsqu'Action Nouvelle Vie a été fondée en 1993 que 25 ans plus tard, on en serait rendu où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Au début, on distribuait quelques paniers de nourriture avec un frigo et un camion emprunté. Aujourd'hui, on parle de plus de 8000 personnes qui sont aidées à tous les mois et plusieurs centaines de paniers de nourriture qui sont distribués à chaque semaine. On parle d'une flotte de camions avec un immense camion réfrigéré, un immense frigo, un congélateur et même de l'espace pour notre non-périssable. En travaillant dans le milieu qu'on s'est vite aperçu que les besoins étaient beaucoup plus grands que la nourriture. Et c'est pour cette raison qu'on a mis sur pied différents services et programmes parce qu'on voulait vraiment répondre aux besoins les plus criants de la communauté. Et c'est à ce moment-là qu'Action Nouvelle Vie est devenue beaucoup plus qu'une banque alimentaire.
Les besoins sont toujours plus évidents pendant la période de Noël. Alors, Action Nouvelle Vie, en 1994, organisait sa première distribution de paniers de Noël. Au fil des années, l'événement n'a jamais cessé de grandir. Maintenant, c'est plus de 1000 bénévoles qui nous aident à distribuer 1100 paniers de nourriture, 3000 cadeaux en une seule journée, pour une valeur totale de 750 000 $. L'année passée, j'ai remis un cadeau à un enfant. Il s'est mis à crier de joie en le déballant. Mais il disait, c'est le cadeau que je voulais, c'est lui que je voulais. Sa maman me regarde, elle pleurait, puis elle me dit, savez-vous que c'est le seul cadeau qu'il va avoir cette année? C'est dans ces moments-là qu'on voit l'impact que nous avons sur ces familles. Un autre des besoins que Action Nouvelle Vie a identifié auprès de nos familles, c'est la pression financière de la rentrée scolaire. En 1997, Action Nouvelle Vie a mis sur pied Retour à l'école, où on distribue des articles scolaires, des sacs à dos, tout ce qu'il faut pour commencer l'école. En août dernier, on a aidé 750 enfants sur place et 2 500 au total à travers nos partenariats avec des écoles en milieu défavorisé. Depuis 1997, ce sont 33 000 enfants qui ont été aidés par le retour à l'école.
Au fil des années, Action Nouvelle Vie a été témoin de la grande vulnérabilité de certaines des mamans. On parle de mères enceintes, de jeunes mamans, de mères monoparentales et même de mères immigrantes qui cognent à nos portes complètement désemparées. C'est pourquoi Action Nouvelle Vie a mis sur pied en 1997 le programme Bon Départ pour offrir un soutien encore plus complet aux mamans qui sont enceintes jusqu'à 6 mois après leur accouchement. À travers Bon Départ, on offre des visites à domicile, du soutien alimentaire, des vêtements, des couches, des articles pour bébé. On veut mettre tout en œuvre pour que le bébé puisse naître dans les meilleures conditions possibles. Ces mamans-là avaient besoin d'un soutien matériel, mais au-delà de tout ça, elles avaient vraiment besoin d'une aide plus personnalisée. C'est pourquoi en 2010, Action Nouvelle Vie a mis sur pied le programme Mère en Action. Chaque semaine, sur une période de 3 à 4 mois, on offre à ces mamans des ateliers où elles peuvent développer leurs compétences parentales. Depuis les débuts de Bon Départ et Mères en Action, on est venu en aide à plus de 3 500 bébés et leurs mamans.
Action Nouvelle Vie est encore plus que ce que vous venez de voir. On parle d'une friperie, Le Support, qui est une boutique de vêtements neufs et usagés qui est ouverte au grand public. On parle également de camps de tennis pour les enfants dans le besoin et plusieurs programmes de réinsertion sociale. Au fil des 25 dernières années, Action Nouvelle Vie a su s'implanter dans la communauté et je suis tellement fière et émue de voir toute la reconnaissance qu'on obtient du milieu. Nous travaillons en partenariat avec la Ville de Longueuil, services de police, centre jeunesse, hôpitaux, CLSC, et en concertation avec les autres organismes du milieu et même que nous leur offrons nos surplus alimentaires. En 25 ans, nous avons distribué une valeur de plus de 175 millions de dollars et on parle de 1,5 million de services rendus. Et si Action Nouvelle Vie a pu faire tout cela au fil des 25 dernières années, c'est grâce à des précieux partenaires, une équipe dévouée, des bénévoles infatigables qui se donnent la main pour se mettre en action ensemble.
Joyeuse Pâques à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce dimanche de Pâques, ici à Nouvelle Vie Longueuil, une toute nouvelle série de messages qui commence ce matin, qui va continuer la semaine prochaine, avril, mais pendant tout le mois de mai et le mois de juin, intitulé « Les quatre promesses de la résurrection ». Bienvenue à vous. Ici, c'est tout un week-end pour nous, cette célébration. Et entre 7500 et 8000 personnes ont franchi les portes de Nouvelle Vie pendant ce week-end de Pâques. Et nous avons, vous qui êtes ici, mais aussi, nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous, aux milliers, dizaines de milliers, qui suivent le message en ce moment en Facebook Live. Et à tous les dimanches, vous pouvez suivre nos messages en direct en Facebook Live. Et aussi, il y a des gens qui suivent en multisite et aussi en streaming partout au Québec. Et dans la francophonie, c'est fascinant de recevoir toutes sortes de courriels de gens qui nous écrivent pour dire « On suit, on est avec vous, on vit Pâques avec vous ». Des gens partout. Au mois de janvier, on a reçu un particulier, reçu une photo, un email avec une photo qui venait de Papété, en Polynésie française, à l'autre bout du monde, au paradis, à Tahiti. C'était au mois de janvier. Il faisait moins 30 ici. Il m'envoie une photo d'eux. Ils sont à peu près une trentaine. Il y a un bel écran. Tu vois la mer en arrière. Ils sont tous en Bermuda avec un tan, avec une espèce d'affaire avec de l'ananas dedans. Puis ils disent, « Oh, Nouvelle Vie, on est tellement bénis de regarder le message. On pense à vous. » Nous autres aussi, on pense à vous. Et il y a toutes sortes de gens que je veux saluer ce matin qui suivent aussi. On a une pensée pour eux. Il y a des militaires qui, à différents endroits, québécois, canadiens, à différents endroits du monde, que leur famille est ici, à Nouvelle-Vie, et qui suivent les messages. Un en particulier que je veux saluer ce matin, qui est à Bagdad, dans des conditions extrêmement dangereuses. Je le salue ce matin. Et également saluer tous ceux qui sont... Il y a des gens qui suivent le message dans des détenus hommes et femmes, avec des aumôniers avec lesquels nous collaborons. Il y a de plus en plus d'aumôniers qui téléchargent les messages et en font des groupes avec différents détenus hommes et femmes. C'est pas facile de passer Pâques derrière les murs avec leur famille à l'extérieur. Alors ce matin, on a une pensée pour eux. Alors tout le monde ici à Longueuil, est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue? Est-ce qu'on peut pousser un cri pour tous ceux qui nous suivent? Joyeuse Pâques! Les quatre promesses de la résurrection ce dimanche matin de Pâques. L'Évangile de Matthieu s'ouvre avec ces mots. La crucifixion, le matin, le dimanche de la résurrection, le ciel dit, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que Dieu veut et peut faire dans ta vie. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il est plus que crucifié. Il n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, entrez et voyez. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. La pierre n'a pas été roulée pour laisser Jésus sortir du tombeau. La pierre a été roulée afin que nous puissions, chacun d'entre nous, entrer dans la résurrection, vivre, expérimenter la résurrection. La résurrection n'est pas un événement du passé, ce n'est pas un événement d'un dimanche seulement. C'est une dynamique, c'est un appel de Dieu à ce que chacun d'entre nous puissions entrer dans la résurrection. J'ai eu le bonheur d'aller plusieurs fois en Israël et d'aller visiter le tombeau. Il y a des sites en Israël qu'on n'est pas trop certain de la véracité. Celui-là est assez avéré au niveau du tombeau vide. Et je me souviens lorsque tu entres, une personne à la fois, et Et le guide qui était là a dit, vous savez, il y a depuis 2000 ans des millions et millions de personnes qui entrent dans la résurrection, proclament la résurrection, mais le tombeau, on y entre une personne à la fois. En ce dimanche matin de Pâques, il y a 1 milliard de chrétiens catholiques sur la terre, mais il y a aussi 700, 800 millions de chrétiens évangéliques qui ont expérimenté d'entrer dans la résurrection. C'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est vivant. Et notre série s'appelle « Les quatre promesses de la résurrection » parce que la résurrection active les promesses de Dieu. Active les promesses de Dieu. Le psalmiste a dit de cette façon, il a écrit un chant qu'on chante encore aujourd'hui qui dit « Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue. » La renommée de Jésus s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Pensez-y un instant. Un groupe d'hommes et de femmes apeurés il y a 2000 ans, avec 3 empires pour les écraser, et tous les efforts qui ont été mis à essayer de faire disparaître le christianisme de la terre au fil des siècles. Et pourtant, aujourd'hui, encore, le christianisme est le mouvement religieux qui grandit le plus vite au monde. Pourquoi? Très simple, parce que la renommée de Dieu s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Que le Christ ressuscité répond encore aujourd'hui. Il est vivant, il répond, il fait une différence dans la vie d'hommes et de femmes. Et le psalmiste raconte son témoignage qui pourrait être le tien et le mien et plusieurs d'entre nous en ce jour de Pâques. Il dit, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. » Le jour où, combien d'entre vous ici ce matin, c'est quelque chose qui est réel pour vous, il y a eu un jour, il y a eu un moment où vous avez ouvert votre vie à la résurrection et vous l'avez invoqué et il est venu et il vous a consolé, il vous a fortifié, il continue à le faire. C'est votre témoignage de résurrection ce matin, ce dimanche de Pâques. Souriez à la personne près de vous avec du chocolat sur vos dents et souriez à la personne près de vous et dites-lui, c'est mon histoire. Dites ça à la personne près de vous, c'est mon histoire. Et maintenant, dites à l'autre personne de l'autre côté, votre deuxième choix, la personne que vous ignorez depuis le début de la réunion, et dites-lui, ça pourrait être la sienne aussi. Il y a un jour, il y a un moment, ça peut être aujourd'hui. Cette Pâques 2019 peut être le jour où tu as invoqué. Il va t'exaucer. Te rassurer et fortifier ton âme et littéralement te permettre d'entrer dans la résurrection. Pourquoi pouvons-nous parler d'entrer dans la résurrection? L'apôtre Paul l'a décrit de cette façon. Il dit, « Si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous de la même façon, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vous rendra la vie par son esprit. » C'est l'expérience chrétienne. La relation chrétienne, l'expérience chrétienne, c'est que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts redonne la vie à tout ce qui a pu s'éteindre en nous. Redonne la vie à tout ce qui a pu mourir. Ah, nous redonne la vie, l'abondance de vie à chaque personne qui s'ouvre. Savais-tu que la résurrection n'est pas théorique? Elle n'est pas seulement historique. Ce n'est pas une pensée magique. La résurrection, elle est pratique, elle est authentique, elle est vivante et elle change des vies encore aujourd'hui. La foi n'est pas quelque chose, notre foi chrétienne n'est pas quelque chose de passif, n'est pas quelque chose de fataliste, n'est pas quelque chose non plus de mystique. C'est très vivant. Lorsque l'apôtre Paul décrit la foi chrétienne, il dit notre foi, Romains chapitre 4, notre foi est en Dieu qui redonne la vie à ce qui était mort, nous permettant l'espoir lorsqu'il n'y a plus d'espoir, appelant à l'existence ce qui n'existe pas encore. Nous avons la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir pour nous qui croyons dans les promesses de la résurrection. Nous étions étrangers de Dieu, mais nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort et par la résurrection de son Fils. Notre foi en ce dimanche de résurrection est en un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas, qui ramène, qui donne l'espoir là où il n'y avait plus d'espoir. La résurrection, littéralement, peut donner, redonner vie à ce qui était mort et prendre des hommes et des femmes qui étaient étrangers, qui étaient éloignés, distants de Dieu, et à travers le sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection, nous réconcilie avec Dieu et nous permet d'entrer littéralement dans la résurrection. Quel que soit ce que tu penses qui est mort en toi, quel que soit ce que tu penses qui est sec, qui est aride, qui est stérile en toi, qui est sans vie, qui n'est pas récupérable, qui n'est pas ramenable, qui n'est pas ressuscitable, l'esprit de la résurrection, l'esprit de Dieu dit, viens, entrez, voyez. Il y a plusieurs années, je prêchais en Californie et j'ai découvert un endroit, j'ai entendu parler d'un endroit qui s'appelle littéralement Death Valley, la vallée de la mort. Et c'est le lieu le plus sec, le plus desséché, c'est un désert, c'est du sable, c'est de la rocaille. C'est le lieu le plus desséché, le plus suffocant, le sol le plus stérile en Amérique du Nord. Il n'y a pas de vie là, il n'y a rien qui vit, il n'y a rien qui a vécu depuis des années. Et il y a un phénomène particulier, alors qu'il n'y a rien qui pousse là, c'est juste du sable, un phénomène particulier à l'hiver 2004, un résultat de El Niño. À l'hiver 2004, c'est une période de quelques mois, il y a 15 cm de pluie qui est tombée sur la vallée de la mort. Et pendant l'hiver, pendant cette pluie-là qui est tombée, au début, aucun résultat. Il n'y avait rien qui se passait. Mais à Pâques, au printemps 2005, la vallée que depuis 50 ans avait juste été aride et sec s'est mise à vivre, s'est mise à fleurir. Vous n'avez pas l'air de me croire. Vous n'avez pas l'air d'avoir confiance dans mes connaissances. Alors écoutez donc Météo Média.
La vallée de la mort en Californie semble bien mal porter son nom cet hiver. L'étendue de terre aride a laissé place à un champ fleuri. En effet, El Niño a fait tomber une quantité inhabituelle de pluie sur la région et grâce à l'irrigation, les fleurs poussent par milliers et de toutes les couleurs. Il s'agit d'un phénomène rare qui ne se produit qu'une fois par décennie. Rappelons que cette vallée désertique est l'endroit le plus sec et le plus chaud en Amérique du Nord.
Alors qu'on pensait que cet amour avait juste besoin d'être alimenté, d'être arrosé, d'être abreuvé, je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, ton rêve n'est pas mort, ta vision n'est pas morte, ton futur n'est pas mort, ta joie n'est pas morte, ta paix n'est pas morte. Tu peux entrer avec nous dans la résurrection. Quelqu'un devrait dire oui. Nous appelons notre série, pourquoi le titre « Les quatre promesses de la résurrection » Nous allons regarder ensemble et on pourrait l'appeler cette série aussi les quatre coupes de la résurrection. Le psalmiste a dit, j'élèverai les coupes de sa vie ou de son salut, de l'abondance de vie qu'il a promis pour nous et de ses promesses. Je vais élever des coupes. Et vous savez que à la Pâque, lorsque Jésus a célébré la Pâque, avant la crucifixion, la résurrection, et on le commémore encore aujourd'hui, il a pris de même une coupe. Et après le souper, il a leur donné en disant cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang qui est offerte pour nous. La Pâque juive de 3500 ans à aujourd'hui, de 1500 ans avant Jésus-Christ à aujourd'hui, et partout à travers le monde, aujourd'hui, ceux qui célèbrent encore la Pâque juive, il y a ce moment, c'est un repas où il y a quatre coupes. Il va y avoir quatre coupes qui sont là pour commémorer. Lorsqu'on pense aux promesses de Dieu dans la Bible, les quatre coupes représentent quatre promesses de Dieu. Il y a plus de 2000 promesses de Dieu activées par la résurrection. Il y a plus de 2000 promesses de Dieu pour chacun d'entre nous. Pendant le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, on va explorer, découvrir ensemble les promesses de Dieu pour nous, vivantes aujourd'hui. Mais ces 2000 promesses de Dieu sont capsulées dans quatre grandes promesses, dans un texte de Exode, chapitre 6, qui est lu à toutes les Pâques, partout à travers le monde, ici au Québec, partout à travers le monde. Lorsque les Juifs célèbrent la Pâque, ils vont lire ce texte qu'on va vous lire ce matin comme départ, de Exode, chapitre 6, où Dieu fait quatre « je ferai ». Quatre promesses. Et ces quatre grandes promesses représentent ces quatre coupes. Et là, tous ceux qui étaient autour, et remarquez que lorsque Dieu fait ses promesses, le contexte n'en est pas un qui est religieux, il n'est pas dans un temple, il n'est pas dans une synagogue, il n'est pas dans une église, il n'est pas dans une cathédrale, il n'est pas dans une structure légaliste froide et rigide. Non, il est à une table. Une table de communion, une table où on partage ensemble, une table où on boit et on partage et on mange ensemble. La résurrection n'est pas quelque chose qu'on vit le dimanche matin pendant un moment religieux ou quelque chose qui est juste retransmis comme une tradition. C'est Dieu littéralement qui dit, je veux venir avec mes promesses dans ta maison, là où tu vis. Je veux que ça soit personnel, je veux que ça soit relationnel, je veux que ça soit que ça te rejoigne là où tu vis. Et les quatre promesses et sont représentées par ces quatre coupes de la résurrection. Et on va lire ensemble notre texte dans Exode chapitre 6. Pensez-y. Depuis 3500 ans, à chaque fois que la Pâque est célébrée, on lit ce texte d'Exode 6, 6 et 7, où Dieu dit, c'est pourquoi je dis à tous les enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous libérerai des fardeaux dont vous chargent les oppresseurs. Je vous délivrerai de tous vos liens. Je vous ferai connaître votre destinée en moi. » Par mon bras puissant tendu vers vous. Je vais vous faire connaître votre destinée en moi par mon bras puissant tendu vers vous. Et je vous prendrai pour mon peuple et je vous ferai entrer et posséder le pays de la promesse. Après, c'est historique, après que le peuple d'Israël a été en captivité pendant des décennies, pendant 8 générations, ont été en captivité, Dieu arrive. Et remarquez que le peuple à ce moment-là s'est éloigné de Dieu, avait tourné son dos à Dieu, avait refusé tout ce qui était de Dieu, avait ignoré Dieu, mais sa promesse, sa main étendue sur le chemin de la vie, nous avons tous soif de plus de paix, plus de sens, plus d'amour, plus de relations authentiques et significatives, plus dans notre relation avec Dieu, plus dans nos relations les uns avec les autres, plus dans, oserais-je dire, plus de bonheur, plus d'accomplissement, plus d'apaisement, plus dans ma relation et avec Dieu et avec les gens autour de moi. C'est le plan et le désir de Dieu depuis le début. Il a, depuis les temps anciens, il fait ses 4 grandes promesses qu'on va découvrir ensemble à chaque dimanche. Et tous les messages vont être sur notre site. Alors, vous pouvez, le dimanche, si vous restez à la maison, vous pouvez les regarder en Facebook Live. Vous pouvez, à partir du lundi, mardi, les messages sont toujours en ligne, gratuitement. Vous pouvez regarder le message en ligne, mais on aimerait que vous veniez le vivre avec nous. Je ne vais pas lever des mains, mais nous avons ici des visiteurs biannuels qui viennent à Pâques et à Noël. On aimerait vous revoir avant Noël. Alors, dans les prochaines semaines, pendant tout le mois de mai, la semaine prochaine, le 28, on commence, et dans tout le mois de mai, et pendant tout le mois de juin, et si tu prenais un dimanche de temps en temps pour venir découvrir les promesses de Dieu pour toi, les promesses de Dieu pour chacun, chaque aspect de ta vie. Dites à la personne près de vous, il veut vraiment que tu viennes. Dites ça à la personne près de vous. 4 grandes promesses. Dieu dit, voici maintenant, et elles sont représentées par les 4 coupes de la résurrection. Et dans le texte que nous venons de lire, Dieu dit, voici maintenant, j'ai 4 grandes promesses pour vous. J'ai une promesse de découverte. Je veux que tu boives la coupe de découverte, de découvrir qu'il y a plus pour toi. Le texte dit, je vais te libérer du joug de l'oppresseur, de ce que ta vie avait été jusqu'à maintenant. Je vais te libérer de ça. Il y a une coupe de, c'est une coupe de découverte. Mais je sais qu'il y a des obstacles sur ton chemin, des choses qui te retiennent. Alors, je vais t'offrir une coupe de délivrance. Je vais te libérer de tous les liens qui ont été mis sur toi. Afin que tu puisses boire, découvrir de la coupe de ta destinée. Il y a quelque chose, il y a toute une œuvre de vie que seulement toi, tu peux accomplir. Il y a plus à la vie que se lever, travailler, prendre sa retraite. Il y a plus à la vie que travailler et avoir assez de sécurité pour bien finir. Il y a plus à la vie que le côté juste matériel. Il y a plus à la vie que d'être pris dans des patterns qui sont toujours les mêmes. Il y a quelque chose, il y a dans chaque sphère de ta vie. Tu peux être au tout début, il y a plein de jeunes qui sont ici. Tu peux être à une jeune retraite, tu peux être à différents moments. À chaque sphère de ta, chaque saison de ta vie, il y a une destinée que seulement toi, tu peux accomplir. Dieu a mis des dons, des talents en toi, des capacités. Il y a quelque chose sur cette terre que seulement toi, tu peux accomplir. Et Dieu dit, je veux te faire boire la coupe de la découverte, de la délivrance, de la destinée qui va faire en sorte que ta vie va faire une différence. Littéralement, c'est Dieu. C'est je découvre que Dieu a plus pour moi et qu'il désire me délivrer afin que je puisse accomplir ma destinée et faire une différence. J'ai travaillé super fort là-dessus. J'aimerais ça que vous fassiez quelque chose en même, applaudir ou quelque chose en même. Je suis un peu épuisé mentalement. Les 4 grandes promesses de Dieu. La promesse de différence parce qu'il y a une immensité. Je vous invite à venir le découvrir avec nous. Il y a un absolu, il y a une immensité de différence entre le religieux et la résurrection. Religieux et boire la coupe de la résurrection dans chaque aspect de notre vie. La religion, le religieux, sous toutes ses formes, veut contrôler les gens. La résurrection libère les gens, veut les rendre libres. La religion divise. La résurrection unit, rassemble. La religion juge, accuse. La résurrection pardonne et accepte. La religion déshumanise les êtres humains. La résurrection permet à chaque être humain de découvrir et d'accomplir la destinée de Dieu pour sa vie. La religion peut produire ce qu'il y a de plus laid et d'atroce dans l'être humain. La résurrection de Jésus peut te permettre d'entrer et d'être et de faire et d'accomplir ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain par la puissance de la résurrection en toi. Alors, ce matin, c'est juste l'intro. Alors, on commence la semaine prochaine. Mais ce matin, les quatre promesses de la résurrection. Entrez avec nous dans la résurrection. Et la première, c'est une promesse de découverte. Je vous libérerai des fardeaux dont vous ont chargé vos oppresseurs. C'est la coupe de la découverte. Exode 2, 23 disait, « Le peuple gémissait sous la servitude et poussait des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu et il eut compassion de leur souffrance, car il n'oublie jamais ses promesses. » C'était littéralement, la première coupe est une coupe de découverte qu'il y a plus que ce que tu as connu, qu'il y a plus pour toi. 8 générations, ça c'est un fait historique, 8 générations, le peuple a complètement tourné son dos à Dieu, méprisé, ignoré Dieu, et ont plongé dans 8 générations de captivité, 8 générations d'esclavage. J'ai eu le privilège, la joie d'aller visiter, d'aller apporter la parole en Égypte plusieurs fois, au Caire, de voir les pyramides d'Égypte, parce que vous regardez ces merveilles, il faut que vous compreniez qu'il y a eu 8 générations d'esclaves qui les ont bâtis, où des milliers et des millions mouraient alors qu'ils le faisaient. Il y avait une servitude et ils en étaient arrivés de génération en génération avec cette limite, avec cette vision que ma vie ne peut pas être autre chose que ça, que voici maintenant nos limites, voici maintenant ce à quoi nous sommes limités. Ça ne sera jamais autre chose, juste des fardeaux de plus, juste le même cycle, le même cercle vicieux, la même dynamique à empoisonner. Et Dieu et la Bible nous dit que leur cri monta jusqu'au cœur, même si eux l'avaient méprisé, oublié, négligé et abandonné, leur cri, leur souffrance monta jusqu'au cœur de Dieu qui eut compassion d'eux et qui dit, je vais étendre mon bras puissant envers vous parce que encore aujourd'hui, j'entends votre cri. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu entend le cri de ton cœur. Entends ton cri pour plus. Il faut qu'il y ait plus que ça. Il faut qu'il y ait plus. Je suis dans un pattern, je suis dans une limite de vie. Et Seigneur, il y a un cri, et parfois c'est un cri silencieux, mais ce cri-là, il est entendu par Dieu. Le cri de ce qui t'a, le cri de ce qui t'a, de la souffrance à cause de ce qui t'a déçu, ou de ce qui t'a déchiré, ce qui t'a diminué, ou ce qui t'a déçu. La Bible est très limpide, la Bible est très lucide sur la réalité des déceptions dans nos vies, de ce que l'œuvre destructrice des déceptions dans nos vies. Un espoir déçu rend le cœur malade, mais une promesse accomplie devient un arbre de vie. Et c'est littéralement le miroir de Dieu qui pose une question à chacun d'entre nous et qui dit, as-tu vécu des déceptions qui ont rendu le cœur malade? Déception dans des relations, déception dans des relations autour de nous, avec nos enfants, déception face à une carrière, déception relationnelle, émotionnelle, spirituelle. As-tu été déçu par l'Église? As-tu été déçu par des croyants? As-tu été déçu? Nous vivons dans un monde de promesses brisées. Parfois, le cœur a été rendu malade par des déceptions de promesses qui nous ont été faites qui ont été brisées. Mais nous connaissons aussi cette douleur particulière lorsque nous nous sommes déçus nous-mêmes. Moi, j'ai fait des promesses que je n'ai pas tenues. Moi, j'ai essayé d'être et j'ai retombé. Moi, j'ai retombé dans les patterns alors que j'allais si bien. Et il y a cette dynamique d'un peuple à qui Dieu dit, je sais que t'es pris là-dedans, mais je peux te sortir de là. Je veux te faire découvrir à nouveau. Je veux te faire découvrir à nouveau que quel que soit le joug, quel que soit le carcan, quel que soit ce qui te limite, ma main puissante va aller t'en libérer. Pierre l'a dit de cette façon, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Cette puissance nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Littéralement, l'offre de la résurrection, c'est que quel que soit ce que tu as vécu, La tragédie que tu as vécue, le pattern que tu as vécu, la dépendance que tu as vécue, la peine, la déception que tu as vécue, ce que tu as traversé n'a pas à te définir, n'a pas à te limiter. L'offre du ciel, c'est pas que tu vas venir à l'église quelques fois par année et tu fais un exercice religieux. C'est que tu peux entrer dans la résurrection et tu peux littéralement devenir participant à la nature divine, à une paix qui vient de Dieu que rien sur cette terre ne peut égaler, à une joie, à une force, à une capacité que seulement Dieu peut donner de passer à travers n'importe quoi. Des centaines et centaines de personnes dans ce lieu qui pourraient témoigner qu'il est arrivé un moment où est-ce qu'une épreuve, une tragédie, que tout ce qui se passait faisait en sorte que tu as le sentiment que c'est ça qui va être ma vie, est-ce que ça va me définir? Je pense à un couple de notre église qui est ici ce matin, Ben et Anne-Marie, deux universitaires, deux PhD, qui se sont mariés, une belle famille. Anne-Marie étudie et fait des recherches sur le cancer. Et Ben, deux docteurs qui, avec une belle carrière, qui, ils aiment Dieu, ils marchent ils servent dans l'Église, mais il y a quelque chose, il y a un nuage, il y a une espèce de joug sur la vie de Ben, parce que son papa est décédé d'un cancer, sa maman est décédée d'un cancer. Lui et ses frères et sœurs ont dû être testés. Est-ce qu'il y a un gène de cancer? Et au mois de janvier, un 1er janvier, ma famille, les membres de notre famille qui sont ici, ce matin, je me souviendrai toujours de ce jour de janvier où on était avec la famille et on a appris que ce jeune couple avait eu un diagnostic. Leur fils, Ruben, venait d'être diagnostiqué avec un cancer horrible, un cancer qui était terrifiant. Et toutes les peurs, toutes les jougs de ce que ça va me définir, je ne pourrais jamais me sortir de ça. C'est ça qui est mon présent, c'est ça qui va être mon avenir. On ne se sort pas de ça. Se fondait sur Ben. Et je me souviens d'avoir été à l'hôpital avec son beau-père qui est un ami. Puis on l'a pris dans nos bras. Mais à ce moment-là de leur vie, alors qu'ils avaient pourtant marché avec Dieu depuis plusieurs années, ils ont découvert que Dieu leur offrait la coupe de la découverte que j'ai encore plus pour toi. La nature divine de ma paix, de mes forces, tu es capable de transcender. Tu peux passer à travers et la tempête va devenir un témoignage d'à quel point la résurrection transforme encore des vies aujourd'hui. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu traverses, Dieu t'offre la coupe de la découverte qu'il a plus de sa résurrection pour toi. Écoutez, Ben et Anne-Marie, et entrez avec nous dans la puissance de la résurrection.
En janvier 2012, il y a maintenant 5 ans, on a amené notre petit garçon à l'hôpital qui était simplement malade. Et il a été suivi pendant 1 semaine, 2 semaines, les médecins se posaient des questions, etc. Et au bout de 2 semaines, le diagnostic est tombé, ils ont parlé d'un cancer au stade 4. Ils ont parlé de très peu de chances de survie. Et c'est comme ça qu'a démarré notre année 2012.
On avait beaucoup de tristesse, de choc, d'incompréhension. Puis à ce moment-là, moi j'étais enceinte de notre deuxième enfant, j'avais 3 mois. De grossesse, donc je m'étais dit, c'est sûr que je vais perdre le deuxième enfant, je ne serais pas capable de passer à travers la grossesse, qu'est-ce qui va nous arriver?
Pour moi, le potentiel de la résurrection, c'est un moment que je me rappellerai toute ma vie. Moi, quand le 1er janvier 2012, les médecins m'ont annoncé, votre fils a un cancer, votre bébé a un cancer, je me rappelle littéralement avoir cette pensée, je vais mourir, la peine va m'emporter, je vais mourir de peine. Puis je me rappelle de m'être écroulé chez nous, effondré à terre, puis d'avoir vraiment vécu un feeling de... Et comme une force qui m'a ramené, une force qui m'a relevé, puis qui m'a dit, tu ne combattras pas tout seul. Le combat que vous allez affronter, ce n'est pas juste vous tout seul. Je vais combattre pour vous.
Et puis c'est vraiment dans cette période-là que j'ai donné naissance à Lévi. Donc, mais Dieu m'a donné la grâce de pouvoir vivre quand même un très bel accouchement. Et il y a des gens qui sont venus nous aider. On a vraiment été portés, soutenus, puis on sentait que les gens... nous donnait cette force-là aussi, nous aider à passer à travers.
Ruben, aujourd'hui 7 ans, on sort ce matin d'une rencontre avec ses professeurs qui nous disent à quel point c'est un super de bon élève et qu'on est encore très émus ce matin. Moi, j'ai retenu mes larmes ce matin quand le professeur parlait de Ruben. C'était vraiment très émouvant. On a Lévi, qui est né pendant la tempête et qui est un petit garçon tempête, qui est un petit garçon plein de vie. Et on a un troisième petit garçon, Nathan, on n'arrive pas à faire des filles. On a un troisième petit garçon, Nathan, qui a 5 mois. Et il y a vraiment eu, avec le recul, on voit à quel point on a été porté dans toute cette tragédie.
Qu'on peut applaudir ensemble la résurrection, la promesse de résurrection. Dieu dit, j'ai une coupe à boire pour toi, une promesse de découverte qu'il y a plus, mais je sais Je sais qu'il y a des choses qui te tiennent, des choses qui te lient, qu'il y a des choses qui t'empêchent d'aller accomplir. Alors, la promesse de la résurrection, c'est je vais te libérer du joug qui te tenait et je vais te délivrer. Je vais te libérer. C'est une promesse de lumière, c'est une promesse de liberté. Je vais te délivrer de tous tes liens, toutes tes dépendances, toutes tes prisons. Il y a des prisons, il y a des portes, il y a des cachots, il y a des barreaux, il y a des cellules qui sont physiques, puis il y en a qui sont émotionnelles, qui sont spirituelles, qui sont à l'intérieur, dans nos pensées, dans notre âme, dans notre confiance. Il y a des liens qui sont invisibles, qui nous tourmentent et qui tourmentent même les plus jeunes. J'étais saisi de lire la semaine dernière dans la presse qu'il y a une hausse fulgurante des comportements suicidaires chez les jeunes. Entre 2015 et 2018, au Québec, le nombre des jeunes qui ont été vus aux urgences de l'hôpital de Montréal pour enfants, pour des gestes ou des idées suicidaires, a augmenté de 55 % en 3 ans. Ces données font écho à une tendance alarmante qui est aussi observée chez les jeunes américains et que vient de documenter le médecin montréalais Brett Bernstein, Dr. Brett Bernstein, dans une étude qu'il co-signe ce mois-ci dans la revue JAMA Pediatrics. 3.7 personnes par jour s'enlèvent la vie. 80 % d'entre eux ont moins que 25 ans. Une espèce de lien intérieur, de souffrance intérieure. Dieu dit, moi, je te faire découvrir que j'ai une destinée pour toi et je sais qu'il y a des choses qui t'en empêchent, des tourments, et je veux te libérer, je te délivrerai par ma main, par mon bras puissant. Il y a plusieurs années, lorsque j'étais leader pastoral jeunesse, j'avais reçu un appel. J'étais avec Chantal à la maison. On a reçu un appel à 2h du matin, 2h20 du matin. Et lorsqu'on a pris le téléphone, j'entendais des bruits, des sirènes en arrière et comme une radio de police. Et c'est un policier qui m'appelle. Il dit, est-ce que vous êtes le pasteur Claude Hood? Je dis oui. Il dit, bon, on a une femme qui est ici, qui s'est barricadée en dessous d'un vieil immeuble. Elle est dans une soute en bas, en dessous d'un escalier. Elle s'est couverte d'essence. Elle a une espèce de torche pour s'enflammer. Et elle a un couteau et elle se taillarde. Puis elle a mis du papier autour d'elle. Elle saigne elle menace de mettre en feu tout le bâtiment et de se suicider, s'enlever la vie comme ça. Elle dit, la policière me dit, on a évacué ce bâtiment-là et les bâtiments autour. On a un périmètre. Et ça fait 2 heures qu'on essaie de lui parler. On n'est pas capable de la raisonner. Et tout à coup, elle a lancé un papier. Elle a lancé une petite carte toute fripée et c'était votre nom qui était écrit dessus. Puis elle a dit, si je parle à quelqu'un, je vais parler à lui. Alors, est-ce que vous pourriez venir? C'est quelqu'un qu'on avait connu, c'est une jeune fille qui avait toutes sortes de problèmes, bien sûr, qu'on avait connu au fur et qu'on avait été visité, qu'on avait connu. Chantal et moi, on l'avait déjà amené dans des centres pour essayer de l'aider. Elle avait été violemment, d'une manière écœurante, abusée dans son enfance. Elle était tourmentée, problèmes de santé mentale extrêmement sévères. Et alors, j'ai sauté dans la voiture, parti pour Montréal, c'était assez impressionnant. On arrive à Montréal, dans le quartier Rosemont, et il y avait tout un périmètre policier. Puis là, je suis arrivé à un barrage. Je suis M. Hood, parfait, laissez passer, c'est M. Hood. Et lorsque je suis arrivé, elle était à l'intérieur, en dessous, et j'essayais de lui parler, je ne la voyais pas, et ça faisait 2-3 heures avec un psychologue et tout ça qui essayait de l'atteindre. Alors finalement, j'ai dit au policier, écoutez, on n'y arrivera pas comme ça, laissez-moi entrer, laissez-moi y aller, je vais y parler, puis ça va aller. Puis on dit, on ne peut pas faire ça pour votre sécurité, on est responsable de vous. Alors j'ai dit, vous n'arriverez à rien. Alors après quelques minutes, le supérieur a dit, OK, on va laisser s'approcher. Alors c'est très stressant, mais on a mis une espèce de harnais sur moi avec une couverture pour essayer de me protéger s'il arrivait quelque chose. Puis on se dit, écoute, vous avancez, puis ça a fait un geste avec le couteau, nous autres, on va vous tirer. Et je me suis approché, j'ai rentré dans le trou. Et lorsque je suis arrivé, je l'ai vu là, c'est comme le portrait de la souffrance. J'ai parlé avec elle 5-10 minutes, donne-moi ton couteau, elle me l'a donné, je l'ai pris par la main, je me suis mis, j'étais comme ça, puis je tendais la main, puis je l'ai sorti de là. Et là, après ça, ils sont partis avec elle. Et le dernier moment que j'avais avec elle était sur une civière. Ils l'avaient attachée sur la civière. Puis ils partent avec elle. Je lui dis, écoute, ça va être OK. Ils vont s'occuper de toi. Et là, je reviens à la maison. Il est 5 heures du matin. Je prends une douche, déjeune. Et je retourne. Je m'en vais au bureau. Et quelques heures plus tard, vers 7h30, 8h, le téléphone sonne. La réceptionniste me dit, il y a quelqu'un qui vous appelle. Alors, je prends le téléphone. Je dis, allô. C'était elle. Elle dit, allô, Claude. Je dis, allô. Je dis, c'est correct. Là, on s'occupe de toi. Elle dit, non. Ils m'ont laissé sortir. Je suis dehors. Je suis dans le parc La Fontaine. Et j'avais été saisi par à quel point la main humaine est limitée dans ce qu'elle peut offrir. Puis moi-même aussi, Lorsque je tendais ma main à cette fille-là, j'étais tellement conscient d'à quel point je suis limité dans ce que moi, je peux faire. À quel point on est limité nous-mêmes dans les combats, puis les choses de libérer d'autres ou de se libérer nous-mêmes. Et c'est ça, la résurrection. C'est Dieu qui dit, je veux te faire découvrir que ce que ta main à toi ne peut pas faire, mon bras puissant s'étend vers toi et est capable d'amener une mesure de libération dans ta vie que rien ni personne ne peut faire. Va applaudir avec moi. C'est pas seulement pour les jeunes qui sont aux prises avec des dépendances ou des pensées suicidaires. Nous avons tous besoin de cette promesse. On a tous des sphères, des zones d'ombre, des choses qui nous tiennent, des choses qu'on n'est pas capable de secouer, qu'on n'est pas capable de se libérer, qui nous empêchent de nous emparer. Et on sait. Et on n'en sait pas toujours la source, mais on sait ce que... Cette semaine, j'étais dans un... On m'a invité à aller sur le CA international de World Challenge qui a été fondé par David Wilkerson, une organisation qui combat la pauvreté dans plus de 30 pays du monde. C'était au Colorado. Et je suis allé là-bas et il y a un grand CA qui est là. C'était un honneur pour moi de siéger sur ce CA. Il y a le président du CA, s'appelle Barry Maguire, et c'est un homme d'affaires chrétien. Et tous ceux d'entre vous, les messieurs et dames, si vous allez au Canada, il est président de Maguire Car Care Products. C'est des cires et des produits pour automobiles qui sont vendus dans plus de 30 pays du monde, un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions par année. Et Barry Maguire est rendu à peu près à 75 ans. C'est un ami de David Wilkerson, c'est un chrétien. Et il m'étourdissait. Moi, je suis quelqu'un d'assez énergique. Mais ce monsieur-là, 75 ans, super beau, en forme. Et il t'a conduit les meetings. C'est des affaires de 6-8 heures de temps, des budgets. J'en avais des cahiers. Et lui, il a dynamique, toujours une parole, toujours en feu. La dernière session, j'ai soupé avec lui. On venait fait deux journées de 8 heures. Le soir, il y avait une autre session. J'étais assis à côté. Il m'étourdissait, un monsieur, avec une joie de vivre, avec une force. À un moment donné, j'ai dit, Barry, comment vous êtes venu au Seigneur, vous? Puis il me dit, tu sais, moi, j'ai pris la compagnie de mon père. Mon père avait fondé la compagnie en 1905. Et puis quand je l'ai pris, il y avait un chiffre d'affaires de 1 million par année. Puis il dit, lorsque je suis arrivé dans la quarantaine, on avait dépassé le 100 millions. Et il dit, j'étais le gars le plus malheureux de la Terre. J'étais obsédé par la mort. J'avais peur de la mort. J'étais pas religieux, mais j'avais peur de la mort. Ça m'empêchait de vivre. J'avais peur, j'étais conscient de tout ce que j'avais mal fait. Je savais pas ce qu'il y avait après. Ça me terrifiait. Mon épouse essayait de m'aider. Tout le monde essayait de m'aider. J'ai rencontré des psys, j'ai tout fait. J'avais peur de la mort. J'étais le gars le plus misérable. Et là, il rayonne. Et puis, ça fait 40 ans qu'il marche avec Dieu. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais invité à une réunion où c'était David Wilkerson qui apportait la parole. Et il a apporté un message sur la résurrection. Et j'ai été saisi avec la pensée que si j'abandonne ma vie à Dieu, reconnais mon besoin de Jésus, je lui donne tout ça, que non seulement il va me donner de vivre une vie de résurrection de vie sur cette terre, je vais boire la coupe de la résurrection, mais en plus de ça, lorsque mon corps s'éteint, je vais être ressuscité avec Dieu. Je ne mourrai jamais. Puis il dit, toute la peur, c'est comme si Jésus a absorbé toute la peur. Il dit, ça fait 40 ans que je vis. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui a peur de la mort ou qu'il y a un lien de peur, un lien de perte, un lien à cause d'un poids, un lien à cause d'une blessure, il a encore un bras puissant qui est capable d'aller chercher dans ton cœur et libérer. On en a tous besoin. Je vais vous lire un témoignage, puis vous serez deviné qui aurait pu dire quelque chose comme ça, parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais on est tous capables de s'identifier à ça. Il y a quelqu'un qui a dit, dans ce témoignage, très honnête, il dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Je trouve donc en moi cette réalité, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Les choses que je ne veux plus faire, j'ai fait encore. J'ai pris des résolutions, j'ai fait des promesses, mais je n'y tiens pas. Et les choses que je sais que je devrais faire, je ne les fais pas. Par mes propres forces, je n'arrive pas à faire ce que j'aimerais tellement faire, et je fais ce que je hais. Qui pensait pu dire quelque chose comme ça? Est-ce que c'était un homme dans une réunion AA, assis autour d'un cercle, qui a confessé son besoin? Je ne suis pas capable de vaincre, je ne suis pas capable de renverser. Est-ce que c'est un jeune au 21-59 dans une séance de thérapie qui racontait des choses qu'il dominait? Est-ce que c'est un joueur, un gambler qui a tout perdu et qui sait qu'il est dans le trou et qui a dit « J'essaie, je prends la bonne décision, mais je me déçois. » Savez-vous qui a dit ça? Pour tous ceux qui sont ici qui pensent, mais moi, je regarde le monde à l'église, tout le monde a l'air parfait, tout le monde a l'air clean. Si vous saviez qu'est-ce que moi je vis, savez-vous qui a dit ça? C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. C'est l'apôtre qui a écrit le 2/3 du Nouveau Testament, rappelant à chaque personne ici, on est tous dans le même combat. On a tous des choses à l'intérieur. Il n'y a personne ici qui juge, il n'y a personne ici qui condamne, il n'y a personne qui lève le nez sur personne. On est tous incapables par nous-mêmes. On peut juste aller chercher de jour en jour cette liberté par la puissance de la résurrection dans chacun d'entre nous. C'est pour ça que Paul, en Romains 7, est d'une franchise désarmante. Il dit, j'ai souvent retombé dans ce que je déteste de moi-même. Je me suis souvent déçu. J'ai brisé plusieurs promesses que j'avais faites. Romains 7, il dit, par mes propres forces, je viens de vous lire, je n'arrive pas à être libéré, mais le verset suivant est pour toi. Il y a une confession, mais il dit, j'ai une confiance, par exemple. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, l'Esprit de vie en Jésus m'a délivré de la loi du péché et je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. J'ai la conviction que celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi va l'accomplir. Je le répète, c'est pourquoi il n'y a pas de jugement dans ce lieu. C'est pourquoi quel que soit où tu as été, on confesse tous ensemble, je n'ai pas la capacité à moi-même, mais je ne suis pas condamné et je ne me laisserai pas dominer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Dieu, de jour en jour, a commencé une œuvre. Il ne me lâchera pas. Il va faire son œuvre de libération dans mon cœur et dans mon âme. C'est la coupe de la promesse pour moi. Il a dit littéralement, je termine avec ceci, car Dieu désire être à l'œuvre en vous par la puissance de sa résurrection, afin de vous donner même le désir. Philippiens 2, 12 et 13. La capacité d'être, de faire et d'être ce qu'il vous a créé pour accomplir. Le 15 avril, la chorale va venir chanter dans quelques instants. Lundi, le 15 avril est une, 2019, est une date que le monde entier va se souvenir. La date de l'incendie terrible de la cathédrale Notre-Dame. Il y a un moment que j'ai visité plusieurs fois, plusieurs d'entre vous, c'est un lieu historique comme nul autre. Et alors que les flammes ravageaient ce site historique, ce lieu, il y a eu ce moment fatidique où il y a une tour, la tour qui est tombée. Et le président Macron a dit, nous la rebâtirons, $1 milliard jusqu'à maintenant qui est entré et tout ça. Et alors que je regardais ça, il y a quelques pensées. C'est un événement qu'on va tous se souvenir. Dans 5, 10, 20 ans, tout le monde va dire, c'est ça le 15 avril qui est arrivé, le 15 avril 2019. Puis, il y a deux, trois pensées sur cet événement-là que je vais juste vous donner en terminant. La première, c'est qu'il y a des tours qui tombent dans nos vies dont personne ne parle, que personne ne voit, mais qui sont tout aussi réelles pour toi et qui sont tout aussi déchirantes pour toi. Il y a des tours qui n'ont pas fait la manchette, puis il n'y a pas eu de collecte mondiale pour ce qui se passe dans ta vie, mais qui est réel. Une tour que tu as besoin d'entendre la voix de Dieu qui dit, « Moi, je peux te rebâtir. » La deuxième chose que je veux dire avec le plus grand respect, on est rendu à 1 milliard là, de promesses. Il y a déjà plein de controverses, où est-ce que l'argent va aller, etc., etc. Et moi, je suis tout en faveur de restaurer la cathédrale et le passé, tout le témoignage historique, etc., 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 etc. Mais je veux juste dire, avec le plus grand des respects, la cathédrale ne change pas des vies avant, puis n'en changera pas après. Dire ceci, il n'y a aucune cathédrale, qu'elle soit catholique, évangélique, protestante, pentecôtiste ou n'importe quel autre iste, il n'y a aucune cathédrale qui change des vies. Et la troisième pensée est celle-ci. Parmi les milliardaires et les gouvernements qui ont envoyé de l'argent, il y a une famille de France qui a donné 100 millions, il y a une autre famille qui a donné 200 millions, puis sont assis ici, dans la deuxième rangée. Bienvenue, et on l'apprécie énormément. Le trésorier de l'Église s'est tourné la tête et dit « Ah oh, oui? » 100 millions, 200 millions, hey, les milliardaires, les gouvernements, tout le monde se bouscule. Il n'y a personne, on apprécie la générosité de tous, mais il n'y a personne qui s'est appauvri et qui s'est rendu pauvre. Il n'y a personne qui va aller à la Banque alimentaire d'Action Nouvelle-Vie la semaine prochaine parce qu'ils ont donné pour la cathédrale. Mais Pâques, c'est le Fils de Dieu qui s'est appauvri, qui s'est donné, qui s'est abandonné, qui s'est offert, qui s'est dépouillé afin de donner sa vie afin que chacun d'entre vous puisse entendre sa voix qui dit, non seulement je veux que tu découvres, je veux te délivrer, mais je veux rebâtir ta vie dans chaque aspect. Ouais. Ça commence avec un oui. Aussi vrai que Dieu est fidèle, 2 Corinthiens, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu ressuscité qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. C'est pour tout ce qui concerne les promesses de... Car pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui que vous allez trouver le oui. C'est pourquoi l'amen, l'accomplissement, est rendu possible par lui, mais il doit être prononcé par nous. L'apôtre Paul rappelle ici que Dieu ne violera jamais la conscience, la volonté de qui que ce soit. Il ne s'imposera jamais à qui que ce soit. Tout est possible en lui. Mais sa demande, c'est lui qui va... Le oui est accompli en lui, c'est lui qui le rend possible. C'est pourquoi l'accomplissement est rendu possible par lui, mais il doit être prononcé par nous. Il doit avoir une réponse de ton cœur ce matin de dire, « Seigneur, je vais ouvrir ma vie à tes promesses, à la coupe de la résurrection. » Et à ce moment-là, quels que soient les barreaux, la cellule, la prison dans laquelle tu t'es retrouvé, tu vas boire la coupe de découverte. Il y a plus. Et tu vas boire la coupe de la délivrance. Ma main puissante va s'étendre. Au début de l'année, nous avons eu un témoignage ici, et c'était le 20 janvier, si vous souvenez, je ne sais pas si vous en souvenez, mais un dimanche, avec une tempête, il y avait comme 40 cm dehors, il est venu 1000 personnes sur 4000 ce dimanche matin-là. Mais on avait un invité, Yanis Gauthier, qui faisait une tournée avec des amis aumôniers, des pénitenciers du Québec. Il donne son témoignage parce qu'il a été en prison en France pendant des années, une vie d'horreur dès sa jeunesse, puis s'est retrouvé avec une longue sentence en cellule et il ne voulait rien savoir, ni de Dieu, ni de... Mais son épouse s'appelle Manu, et elle se tenait dans les promesses de la résurrection. Elle priait pour lui, le soutenait, le visitait, et il y a eu un moment où il a finalement dit oui. Il a finalement dit oui, son histoire est devenue, j'ai dit oui et j'ai découvert que Dieu voulait me délivrer afin que je puisse accomplir ma destinée et que ma vie puisse faire une différence. Dans les derniers instants de cet avant-midi, alors que vous écoutez, pendant quelques instants, on va regarder un petit extrait de son témoignage qu'il a donné ici même, comme il l'a donné dans des prisons partout au Québec. Témoignage de Yanis Gauthier. Vous pouvez ce matin dire oui à la résurrection.
Mes parents m'ont abandonné. Toute ma vie, j'ai galéré, j'ai souffert. J'ai fait les poubelles pour manger. Manu, toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime. J'ai dormi dans des trains, dans des bâtiments, dans des squats. J'ai vu mes amis mourir sous mes yeux, Manu. Et toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime, Manu? Manu, quand j'étais enfant, que je dormais sur un bout de carton, dans une cave, après que ma belle-mère m'ait défoncé la tête à coups de poing. Le seul être vivant, Manu, qui était là pour essuyer mes larmes, pour me donner de l'amour, de l'attention, de l'affection, c'est mon chien, Manu. Mon chien, il m'a aimé plus que l'homme. Alors ne me dis pas à moi que Dieu m'aime, parce que si Dieu m'avait aimé un seul instant, une seule seconde, il n'aurait jamais permis ça, jamais. J'étais insensible, j'étais complètement paumé, complètement détruit. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi. Pourtant, un soir dans ma cellule, il va se passer quelque chose d'assez particulier. Je vais avoir un parloir avec Dieu. C'est comme si Dieu était présent. C'est comme si Dieu venait parler à mon cœur pour me dire, Yanis, mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Toute la nuit, j'ai entendu ces paroles marteler mon cœur et ma conscience toute la nuit. Et le lendemain, j'avais parloir avec Manu. En entrant dans le parloir, c'est comme si un voile était ôté de mes yeux. Je regarde cette femme qui est à bout de force, cette femme qui est devenue la risée de toute sa famille, qui a été roulée dans la boue, dans la poussière à cause de mon attitude, cette femme qui a accepté de descendre de son bus à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, qui a accepté de porter cette honte, cette femme qui a accepté qu'on fouille les couches de ses bébés pour voir si elle n'y cachait pas de la drogue à l'intérieur lorsqu'elle me rendait visite. Cette femme qui est là, je la regarde et je lui dis, Manu, est-ce que ton Jésus il peut faire quelque chose pour un gars comme moi? Est-ce que ton Jésus il peut faire quelque chose pour un pauvre pécheur comme moi? Est-ce qu'il le peut? Et là, Elle se met à pleurer, m'ouvre son cœur et me partage son secret. Yanis, depuis le jour où tu as mis les pieds dans cette prison, j'ai levé la main vers Dieu. Depuis le jour où tu es incarcéré, je n'ai jamais cessé de prier pour que Dieu touche ton cœur. Et aujourd'hui, là, maintenant, Dieu vient d'entendre la voix de mes larmes et il vient d'exaucer mes prières. Et alors que je regagne ma cellule, on m'informe que le directeur veut me voir. C'est pas bon signe. Et effectivement, quand j'arrive à son bureau, il est en colère contre moi. Il est furax. Elle me dit, des gens comme vous, on les garde au chaud ici. Pourquoi vous me dites ça? Il me dit, ça fait 20 ans que je travaille en milieu carcéral et je dois dire que je n'ai jamais vu ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et là, il me montre un fax. Il me dit, voilà, je viens de recevoir ce papier de la juge d'instruction. Je ne sais pas ce qui lui a pris, mais soudainement, elle a décidé de vous libérer provisoirement. Alors, faites votre pactage et rentrez chez vous. Quand j'entends ça, je lui dis, mais monsieur, il y a peut-être une erreur. Je suis Yanis Gauthier, matricule 52 964. Je suis là pour 3 vols à main armée. J'encours une peine de 20 ans. Ça fait que 7 mois que je suis en prison. Je dois attendre 3 ans avant d'être jugé. Il y a forcément une erreur, monsieur, hein? Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Vous voulez rester avec nous? Je lui dis, non, merci, ça va, je rentre chez moi. J'arrive à la maison, je sonne. Manu, les enfants m'accueillent. Nous allons dans le salon, nous nous mettons sur les genoux, nous commençons à adorer, magnifier, exalter, glorifier Dieu pour ce miracle qu'il venait d'accomplir. Et là, tout à coup, Manu me dit, chérie, je serai toi, je prendrai la valise qui est là parce que je pense que je vais mettre notre enfant au monde. Quelques heures plus tard, je coupais le cordon ombilical de mon petit bébé et je promettais au Seigneur Jésus de le suivre jusqu'à la fin de mes jours.
Je vous remercie pour votre attention ce matin. Je vais demander une dernière faveur. Si c'est possible, à chacun juste, avant que le tourbillon de la vie nous reprenne, tu peux s'arrêter un instant, tu peux demander à chacun juste de pencher la tête dans un moment. C'est dimanche de Pâques, c'est dimanche de la résurrection. Alors que le bras étendu de Dieu est offert à chacun d'entre nous et que tout le monde prie, depuis ce jour où je t'ai invoqué, tu m'as consolé, tu m'as fortifié, tu as restauré mon âme. Ce jour de Pâques 2019 peut être ton jour. Et je voudrais simplement te demander, es-tu prêt à dire oui? Les promesses avec Dieu ne sont pas oui et non. Les promesses des hommes ont déçu, les promesses des gens ont déçu. Mais les promesses de Dieu sont sûres, elles sont certaines, elles sont absolues. Et il y a une promesse de découverte, de lumière, de délivrance, de liberté pour toi. Il veut que tu puisses découvrir que son désir est de te délivrer afin que tu puisses accomplir ta destinée et que ta vie puisse faire une différence. Alors ce matin, pendant que toutes les têtes sont penchées, avant qu'on aille célébrer Pâques en famille, se réjouir ensemble. Si vous êtes ici, vous dites, je veux dire oui. Oui, et reconnaître mon besoin de Dieu. Je veux dire oui. Il y a quelque chose qui a besoin de renaître en moi. J'ai besoin de résurrection. Ma foi a besoin de renaître. Il y a un espoir qui a besoin de renaître. Il y a quelque chose qui est arrivé qui est tellement sombre, qui me fait tellement mal. J'ai besoin. J'ai une peur de la vie, peur de la mort. Ce matin, je veux dire oui. Je veux reconnaître mon besoin de Dieu. Je veux dire oui. Je veux répondre à son bras qui est tendu vers moi. Je n'ai pas la folie de le repousser. Je veux dire oui et me repentir. Vous dites, hey, quel vieux mot. Le mot repentir veut dire changer de direction. Juste avant, tu marchais loin. Juste te tourner, ouvrir ta vie. Seigneur, je reconnais mon besoin de toi. Je reconnais Jésus. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et je veux dire, oui, j'ai besoin de revenir à Dieu. Je me suis éloigné et je veux dire oui, car toutes ces promesses, car l'Amen vient de lui. Mais tu dois répondre oui ce matin. Alors, pendant que toutes les têtes sont penchées, avant qu'on termine avec un chant de célébration, si vous êtes ici ce matin, alors que le bras de Dieu est tendu vers vous et vous voulez simplement dire oui à la promesse de la résurrection et à Jésus, je vous demande simplement de lever votre main partout à travers, juste comme un geste de foi. Wow! Des dizaines et dizaines de personnes de tous les âges, Seigneur, qui lèvent leurs mains vers toi. Alors, je vais vous conduire dans une prière alors qu'on arrive à la fin de cette réunion. Cette prière-là, je vais vous demander de la répéter avec moi. Il n'y a pas de répétition. La vie n'est pas dans la répétition, mais parfois, on ne sait même pas comment prier. Alors, je vous conduis dans cette prière que je vous demande de prier avec moi. Nous avons cette assurance que lorsque nous prions, il nous entend et il va répondre. Lorsque je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Alors, ce matin, toute l'Église va prier cette prière avec toi pour que tu saches qu'on est là avec toi dans ce moment le plus important de ta vie. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble, tout le monde, en disant, « Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reviens à toi. Je t'accepte dans ma vie. J'ai besoin de résurrection. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens me donner ta résurrection. » Viens me libérer et viens me faire découvrir ce que tu as de préparé pour ma vie. Et Seigneur, maintenant, je te prie que ton esprit vienne témoigner à chaque cœur, chaque personne. Il n'y a pas de foule devant toi, juste des personnes, un à un qui entrent dans la résurrection. Que ton esprit vienne témoigner à leur esprit que ce jour peut tout changer, qu'ils sont enfants de Dieu, que tu pardonnes, que tu partages. La puissance de ta résurrection vient enlever les peurs, vient enlever les tourments. Seigneur, que tu commences une œuvre de libération de toute dépendance, de tout lien, de toute captivité. Que tu ouvres les portes, Seigneur, que tu entends leur cœur. Et qu'aujourd'hui, ils sont entrent dans une dimension où leur vie va changer pour toujours. Et Seigneur, tu dis dans ta parole que chaque personne est tellement précieuse pour toi que s'il y a une seule personne qui avait répondu à cet appel ce matin, que tout le ciel se réjouit, éclate en ovation et en applaudissement lorsqu'il y a seulement une personne qui vient à toi. Alors ce matin, nous nous joignons aux anges du ciel pour célébrer le plus grand de tous les miracles, des dizaines et dizaines de personnes qui disent oui à Jésus, qui disent oui à toi. Alors nous célébrons et nous applaudissons le miracle de ta résurrection ce matin dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit un dernier grand Amen. Hey, est-ce qu'on peut se lever une nouvelle vie et ovationner? Allez, ovationner la résurrection avec moi ce matin. Est-ce que je peux entendre une ovation montée vers Dieu? Si vous êtes là pour les premières fois, si vous venez au Seigneur, revenez à lui, allez, arrêtez-vous à l'espace, bienvenue. En sortant, on a un sac cadeau pour vous, il y a un livre que j'ai écrit sur découvrir et développer votre potentiel. Je vais vous l'offrir en cadeau, et des gens qui sont là. Et avant qu'on parte, on croit que Pâques, c'est le dimanche pour célébrer. Alors, voulez-vous accueillir la chorale Nouvelle Vie qui chante « Il est vivant » dans ce moment de conclusion et de célébration ensemble. « Il est vivant ».